Les tintinophiles s'en réjouiront. Le Lotus bleu réapparaît aujourd'hui dans sa version originale de 124 pages colorisées. Et ce, en parallèle d'une biographie du vrai Chang. C'est, vous le savez, c'est un des personnages principaux du Lotus bleu de Tintin. Et donc, une biographie du vrai Chang, le personnage qui a inspiré le Chang de cette BD. Eh bien, cette biographie est écrite par Dominique Marie, qui est Chang Yifei, la fille de Chang Chongzhen, si je prononce bien, bien sûr. Le Chang dont il est question. Dominique Marie, qui est spécialiste de la vie et de l'œuvre d'Hergé, il est notre invité, et on évoque avec lui aussi le passé d'Hergé, passé assez controversé et ambigu, hein, et bien sûr des accusations d'antisémitisme qui pèsent sur sa personnalité. Voici donc maintenant Dominique Maric au micro de Blaise van der Linden.
Dominique Maric, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, vous êtes spécialiste de la vie et de l'œuvre d'Hergé. Et Tintin est à la fête, hein, en ce début d'année 2025. Il y a la publication d'une nouvelle version colorisée du Lotus Bleu, ainsi que d'une biographie de Chang Chongzhen. Vous en êtes auteur avec donc Chang Yifei, qui est la fille de Chang Chongzhen. Alors, pour commencer, Dominique Maric, rééditer l'œuvre de Tintin en colorisé, quel est l'objectif aujourd'hui en 2025?
Ben, je crois qu'il y a eu évidemment ces albums qui sont les 9 premiers albums qui étaient en noir et blanc et donc qui étaient un petit peu la première mouture puisque ces albums après ont été en partie redessinés, reformatés pour arriver à des albums de 62 pages comme nous les connaissons. Et ici, si vous voulez, c'est parce que le Lotus Bleu en noir et blanc, en clair, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est 124 pages, 124 planches, mais ici, en colorisant cette version-là, donc la version de 1936, quelque part, on donne une seconde jeunesse à l'album. Il y a toute une série, je dirais, de scènes et d'ambiances qui sont, on va dire, sublimées par la couleur. Autant le noir et blanc, il y a une esthétique, il y a évidemment toute une approche tout à fait logique de la part d'Hergé à cette époque-là. Autant la couleur apporte quelque chose de supplémentaire. Et je crois que ça peut attirer un autre public, peut-être des gens qui n'ont jamais eu les albums en noir et blanc entre les mains, et peut-être qu'ils sont nombreux. Soit les originaux, mais les originaux coûtent souvent très cher maintenant, ou alors même des facsimilés. Donc cette version colorisée, en quelque sorte, apporte effectivement un autre éclairage. Et c'était ça un des grands objectifs, c'est une sorte de relecture par d'autres publics et par d'autres gens. Et ça prouve à quel point, en 2025, l'œuvre d'Hergé est toujours à la mode, on va dire.
Alors, que peut-on apprendre de plus dans ce Lotus Bleu de 2025 comparé au premier? Y a-t-il des petits arrangements dans l'histoire?
Ben non, en fait, c'est le respect absolu des 124 planches d'origine. Par contre, il y a un cahier critique, comme on l'appelle, qui est situé à l'avant, je dirais, comme une sorte de préface, écrit par Philippe Godin, qui est le plus grand spécialiste de l'œuvre d'Hergé, certainement. Et donc, ce cahier critique nous apporte évidemment toute une série de renseignements quant au contexte politique de l'époque, quant aux événements qui avaient lieu, quant à la façon dont Hergé s'y est pris pour représenter certaines choses. Donc, ça, c'est certainement la plus-value de cet album par rapport à un album traditionnel, et qu'il est accompagné d'une sorte de façon de lire, et ça éclaire beaucoup de choses, évidemment, vu les recherches que Godin a fait depuis très longtemps sur cet album et sur les autres d'ailleurs.
Alors dans le même temps, hein, donc je le disais, il y a une biographie de Chang Chongzhen qui est en compagnie de Chang Yifei, qui est donc sa fille, qui est publiée. Parlez-nous de cet ouvrage consacré à Chang Chongzhen, le lien entre le Chang du Lotus Bleu et le personnage Chang Chongzhen qui a visiblement inspiré Hergé.
Voilà. Alors c'est je dirais que quand on écoute certaines personnes qui racontent leur histoire, eh bien, c'est aussi une forme de roman ou de film. Et c'est vrai que la vie du vrai Chang est un véritable roman. Ça m'étonne d'ailleurs que personne n'a encore eu l'idée de le porter à l'écran. Toujours est-il que cette biographie, le but, puisque je l'ai coécrit avec la fille de Chang, c'était de montrer que, au-delà du fait qu'on assimile toujours le Chang de fiction créé par Hergé dans le Lotus Bleu au véritable Chang qui était devenu son ami dans les années 30, il y a un homme qui a toute une vie consacrée à l'art et qui était un grand artiste. Alors, bien entendu, on connaît déjà certaines de ses œuvres, mais globalement, le fait d'avoir les témoignages directs, et notamment par rapport à toute une série de choses dont un fameux journal de bord il tenait au jour le jour durant son séjour en Belgique et en Europe, ça nous fait mieux connaître encore le personnage. Je dirais de toute façon, on peut écrire des dizaines de livres sur quelqu'un, qu'il s'agisse d'Hergé, de Napoléon ou de Chiang, il y a toujours du nouveau. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce qu'on peut appeler un challenge, c'est le fait de découvrir qu'en fait, à propos de Chiang, il y a encore des centaines, des milliers de détails à connaître. Alors évidemment, comme tous les ouvrages, il y a une pagination qui est limitée, on ne peut pas tout expliquer, tout montrer. Mais en tout cas, je le répète, il y a d'une part ce personnage de fiction qui évidemment a été inspiré par le vrai Chiang, et puis par ailleurs, il y a tout le reste de la carrière de Chiang quand il retourne en Chine, toute cette période où il est devenu très connu à Shanghai et dans toute une série d'autres régions de la Chine, et puis évidemment la période assez dure des années 60 avec la révolution culturelle et les gardes rouges, puis sa réhabilitation, le fait qu'il est devenu un grand artiste dans son propre pays, et cerise sur le gâteau, c'est qu'en fin de vie, il est en Europe, il est en France, et il devient une sorte d'artiste officiel sous la présidence de François Mitterrand. Et donc, c'est un peu le trait d'union entre l'Extrême-Orient et l'Occident que cet artiste qui a vraiment pu, je dirais, s'inspirer et étudier énormément l'art en Occident et qui n'a jamais renié, évidemment, ses propres valeurs au niveau artistique, hein, donc l'art tel que les Chinois le pratiquent.
Alors, il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y a une histoire derrière la rencontre de ces deux hommes.
Oui, voilà, Hergé, ben, que je voulais, c'est quelqu'un qui, après ses humanités, hein, n'a pas fait d'études supérieures. Il se retrouve, je dirais, engagé au journal Le XXe siècle, et puis il a déjà des réputations de bon dessinateur, etc. Donc, il va créer le petit XXe et il va créer presque de but en blanc un héros qui s'appelle Tintin. Mais les premières aventures de Tintin, Congo, Amérique, Soviète, enfin, sont des aventures un petit peu spontanées, il n'y a pas du tout de statut d'auteur de bande dessinée à l'époque, et donc Hergé, je ne vais pas dire qu'il fait ça à la petite semaine, mais il a déjà une documentation, mais ça reste quand même très maladroit d'une certaine manière. Bon, avec l'album Les Cigares du Pharaon, il y a une sorte d'amélioration, déjà, que ce soit au niveau des sources documentaires ou du scénario, mais en tout cas, le mouvement des missionnaires est très puissant. En Europe et en Chine, bien entendu, et en Afrique. Et c'est suite au fait qu'il connaissait lui-même des prêtres et des missionnaires que certains vont le mettre en garde en disant, attention, il y a une communauté chinoise en Belgique, ce sont des étudiants, souvent ils connaissent le français, et vous risquez de les choquer si vous les placez dans des caricatures un peu trop grossières. Et donc voilà, il y a donc l'abbé Gosset qui était l'aumônier des étudiants chinois en Belgique. Il lui dit, bah, écoutez, je vais vous présenter quelqu'un. Donc, c'est ce fameux Chang Chongzhen, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, qui parle le français, qui a les mêmes confessions religieuses que vous. Il est catholique et il a une grande connaissance, déjà malgré son jeune âge, de l'art. Donc, c'est peut-être la personne qui va, comme on dirait maintenant, vous coacher le mieux. Et donc, voilà, c'est une rencontre assez extraordinaire parce que Hergé peut voyager à l'époque et rencontrer quelqu'un qui vient d'aussi loin, qui lui ouvre des portes insoupçonné sur un monde qu'il ne connaît évidemment pas, ça va donner l'album que l'on connaît. Et je dis toujours que c'est très dommage que pour Tintin au Congo, par exemple, Hergé n'ait pas eu la chance de rencontrer un jeune Congolais lettré et qui aurait pu aussi lui donner une toute autre façon d'écrire son Tintin au Congo et ne pas tomber évidemment dans les clichés faciles comme ça a été le cas presque à son insu, je dirais.
Alors,
Oui.
les idées d'Hergé, on a appris à les connaître. Dans L'étoile mystérieuse ou dans un décor apocalyptique, Tintin rejoint une expédition de savants du pays occupé par l'Allemagne ou neutre contre une expédition américaine. Le méchant de l'histoire, c'est alors un financier juif américain du nom de Blumenstein, ajoutant à cela des propos tenus par l'artiste et son amitié avec Léon de Grelle. Cela montre un certain antisémitisme de la part
Oui,
d'Hergé.
je vous avoue que c'est un sujet qui m'a beaucoup questionné parce que, étant le fils d'un papa très courageux qui s'est retrouvé dans plusieurs camps en Allemagne pendant la guerre, qui en a beaucoup souffert, il est évident que je n'aurais pas beaucoup aimé le fait de savoir qu'Hergé était quelqu'un d'extrêmement, on va dire, touché par la collaboration avant et pendant la guerre. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et j'en viens à conclure, et croyez-moi que ce n'est pas une parole en l'air, il a eu effectivement autour de lui pas mal de gens qui étaient plutôt orienté politiquement de façon assez forte et bon, notamment Jamin, qui était caricaturiste au XXe siècle, qui était un antisémite notoire, pour ne citer que lui. Mais Hergé, c'est un artiste qui, je ne dirais pas qu'il a une sorte d'autisme, mais il fait son boulot, il ne se pose pas trop de questions, et c'est vrai qu'il est fort influençable dans une première partie de sa vie, mais dès le moment où il se rend compte, effectivement, que tout ça n'est pas comme il devrait l'être, il va changer radicalement son fusil d'épaule. Je ne crois pas qu'on peut parler d'opportunisme. Je crois que c'est quelqu'un qui évolue, effectivement, qui a connu toute une série de gens qui étaient impliqués dans une certaine collaboration, parfois de manière forte, mais souvent la collaboration intellectuelle, c'est-à-dire c'est des gens qui travaillaient dans des journaux, qui écrivaient des articles, qui publiaient dans des journaux, évidemment, qui étaient aux mains de l'occupant. Quant à lui, ben c'est vrai qu'il a regretté effectivement d'avoir eu parfois ces images outrancières et très caricaturales. Et je peux le dire sans exagérer que plus il a avancé dans l'âge, plus il est passé vers autre chose, plus il a été ouvert aux autres. D'ailleurs, il défend les Chinois contre l'impérialisme japonais dans les années 30. Il est très pour-rougiste, donc il est très sensible au sort des Indiens d'Amérique et toutes les spoliations qu'ils ont vécues par les Américains blancs, on va dire. Il est très sensible à la cause des Gitans dans les bijoux de la Castafiore, aussi dans Tintin, le Temple du Soleil, le petit Zorino qui subit des violences et des maltraitances de la part des colons d'origine espagnole. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire sur les mauvaises inspirations d'Hergé, mais aussi sur le fait que c'est une période de sa vie, il faut pas le nier. Ça a été dénoncé, notamment dans la biographie d'Hergé faite par Rassouline, donc qui est juif lui-même et qui a eu carte blanche pour aller dans les documents, etc. Donc, moi, je dirais que il y a eu de sa part oui, je dirais peut-être une sorte de faiblesse par rapport à certaines prises de position. Et par la suite, ben, il a évolué tout à fait vers autre chose. Et comme je dis souvent, le Hergé de 20 ans, c'est pas le même que celui de 40 ou de 60 ans. Dans mes recherches, j'avais notamment constaté qu'avant la guerre, j'avais rencontré quelqu'un qui était proche d'Hergé et qui était président de la Jeune Garde socialiste dans le coin de Waterloo, on va dire ça comme ça. Et ce monsieur, ben, il a fait partie de cette mouvance qui s'est retrouvée un peu dans la collaboration. Et ici, on parle de socialiste bontain qui défendait des valeurs humaines et qui était évidemment très sensible à toute une série de choses qu'ont faites les nazis. Et donc voilà, il y a eu beaucoup d'égarements, et encore une fois, il n'est pas du tout question d'excuser qui que ce soit ou d'arrondir les angles, mais peut-être effectivement d'étudier à fond ce contexte et de voir que lui s'est dédouané de tous ces gens, notamment par rapport à De Grelle. Dès le moment où De Grelle a créé son parti et s'est radicalisé, il s'en est éloigné très fort, même si par la suite De Grelle revendiquer le fait que, par exemple, le personnage de Tintin, ben, avait été créé par rapport à sa propre image, ce genre d'élucubration-là, par exemple. Voilà. Mais c'est un sujet effectivement passionnant, important, et pour lequel il ne faut rien occulter, mais je crois que c'est ce qui manque le plus peut-être à notre époque, c'est ces analyses et ces nuances qui demandent évidemment énormément de temps et d'énergie et de documents pour voir exactement à qui on a affaire. Donc c'est un sujet très intéressant, en tout cas,
Oui.
voilà.
Dominique Maric, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes spécialiste de la vie et de l'œuvre d'Hergé et co-auteur donc de la biographie de Chang Chongzhen en même temps que la publication de la nouvelle version colorisée du Lotus Bleu. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Mais ce fut un plaisir. Merci à vous.